Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur le travail en France, ou plutôt le travail tout court. Une fois encore, on a beaucoup discuté, beaucoup divergé, santé mentale, burn-out, la place des parents, de devenir parent en fait quand on travaille, de la mère, du père, qu'est-ce que c'est d'avoir un travail idéal en termes d'argent, comment on utiliserait cet argent si on gagnait au loto, enfin, bon, beaucoup de divergences. Et puis, bonne écoute.
Ce dont vous avez envie pour votre vie future, mais mine de rien, créer une famille, ça impose un certain cadre.
Je suis de plus en plus... Ma pauvre maman qui vient de prendre sa retraite, qui rêve d'avoir des petits-enfants...
Alors Loïc, quand est-ce que tu nous fais un petit Loïc?
Je suis de plus en plus d'avis de ne pas avoir d'enfants.
Cette raison-là? Uniquement?
Non, pour le fait que... Alors, il y a plein de trucs, mais pour le fait que, par exemple, je ne veux pas être le dimanche après-midi à regarder mon gosse descendre l'autobogan au soir du coin, tu vois.
Mais ça, c'est toi qui le décides, en fait.
Bah, si je ne suis pas là, qui le fera, tu vois.
Qui a décidé que le toboggan, c'était le dimanche après-midi?
Faut que je m'occupe de lui, tu vois. Moi oui. je me dis, là, je ne vis pas assez longtemps sur Terre pour faire tout ce que je veux faire. C'est clair.
Ouais.
Même pour voir tout ce que je veux voir. Alors, si en plus, je dois des... Parce que quand t'as un gosse, en vrai, 80% de pain, ton gosse devient la majeure partie de ta vie, en tout cas. Fin...
Mais c'est encore une fois parce que... C'est peut-être parce que notre société actuelle n'est pas faite justement pour bien équilibrer tous ces pans-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une newsletter de Jérémy Coleman. D'ailleurs, ça te plairait. Je pense que tu pourrais t'abonner à son compte. C'est un entrepreneur qui accompagne les solopreneurs, les coachs, les thérapeutes, etc. à lancer leur activité en ligne. Et en fait, là, il va être papa. Et du coup, il en parle en disant que lui, là, qui avait toujours été hyper indépendant à faire sa vie comme il l'entendait, à gérer son temps, à faire son business, etc., que là, il s'était retrouvé à se dire « Ok, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que je mets en place ou qu'est-ce que je sacrifie ou qu'est-ce que je change pour m'occuper de cet enfant de la meilleure manière qui soit sans pour autant perdre mes passions ?» Et du coup, il s'est mis à penser différemment en termes de business, en termes d'organisation de temps, en déléguant certaines choses à ses associés avec qui il travaille pour son business. Et en fait, il a expliqué comment il a mis son plan truc pour du coup donner les moyens à son enfant d'avoir une vraie relation avec son père, peut-être même plus que quelqu'un qui serait du 9h-19h, tu vois, pour le coup. Et en même temps, ne pas perdre cette passion pour l'entrepreneuriat. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il avait réussi à combiner le fait d'avoir un enfant et du coup des impératifs où effectivement, tu es entrepreneur, mais tu dois emmener ton enfant à 8h à la crèche. En fait, tu décales, tu organises différemment, tu changes, tu t'associes, tu trouves des moyens. Je pense qu'il y a toujours des solutions à partir du moment où tu considères que ce que la société t'impose n'est pas une règle à suivre, mais que c'est à toi aussi de réussir à trouver comment toi, tu comptes créer ton truc, tu vois.
Ouais, mais c'est pour ça que je trouve cette histoire d'avoir des revenus passifs, que ce soit le Amazon FBA comme le Scott ou dropshipping ou un podcast.
Non, ne parle pas de dropshipping, sur ça, j'ai peur de fort, là, s'il te plaît. J'ai une ligne éditoriale quand même.
Je suis en train de lancer un business dropshipping. Et bref, non, mais peu importe. En fait, je trouve que ça t'enlève toute cette pression et après, tu peux. Enfin, si t'as 3, 4K, 5K qui tombent par mois. T'as plus cette pression, en vrai là tu gères ton truc beaucoup plus à ta main, et même si après je pense que le fait d'avoir cette pression ça te met dans un mood où justement là tu ressors tout le meilleur de toi-même, parce que là t'es dos au mur et là tu donnes tout. Mais c'est pour ça qu'en fait moi je veux d'abord assurer cette partie là je pourrais rejoindre une boîte, recréer une boîte maintenant, mais je veux d'abord assurer un truc qui tourne tout seul et surtout pas le revendre, donc on ne va pas me faire un truc que je peux dépenser en deux secondes et sur des pulsions, mais avoir un truc qui tourne, et après quand t'as cette sécurité là, je pense que tu vois complètement différemment. Tu vois.
Donc, en fait, tu n'exclus pas le fait d'avoir des enfants, mais c'est juste que pour l'instant, c'est... dans ta circonstance actuelle, ce n'est pas possible.
Oh, question, ouais. Mais après, ma mère, elle a 43, mon père a 51, je crois. Donc,
oui, tu as le temps.
Il reste du temps, tu vois.
T'es large.
Mais pour l'instant, ouais, là...
Par rapport au business passif, alors je ne sais pas du tout, hein, c'est ce qui me vient maintenant tout de suite. J'ai quand même tendance à me dire que c'est un peu user de la faiblesse des gens pour faire des revenus sur eux. Parce que business passif, j'entends plusieurs choses par business passif.
Il y a plein de choses par revenu passif.
Ouais, ouais. Business passif, enfin revenu passif, il y a le dropshipping en effet.
L'investissement,
bon, qui est, voilà.
C'est du revenu passif.
Il y a, ouais, c'est vrai qu'il y a l'investissement. Ouais,
l'affiliation.
Ouais, c'est vrai. Imagine, mais j'ai tendance à voir aujourd'hui ce qu'on voit tous sur les réseaux, le coaching où tu crées tes coachs déjà faits, pas du tout personnalisés, tes coachings déjà faits, pas du tout personnalisés, et pouf, tu balances ça à 100 balles.
Ouais, mais imaginons que tu crées un contenu hyper... Je sais pas, mettons demain, toi, tu veux lancer un cours en ligne de SES pour, non, admettons, t'as 20 ans d'expérience en tant que prof, et t'as envie de lancer un programme en ligne tout en un, pour des futurs profs, pour les aider à se lancer, à prendre en main les élèves, etc. Mmh. Tu passes un temps ouf sur ta création de contenu et ton programme, et tu le vends, et tu te fais des revenus après. Enfin...
Mais du coup, je ne suis pas sûr de savoir ce que vous ciblez par revenu passif, parce que là, il y a la question de la... Enfin, il y a la question de l'effort, c'est un peu la question du droit d'auteur. Le mec qui reçoit encore des revenus de la danse des canards, tu vois. Il y a un moment, il a créé quelque chose.
Oh ouais,
il a fait quelque chose. Alors que des revenus passifs. Tu parlais d'investissement, un loyer, t'as pas. Tu vois.
Ouais, passif, pour moi, c'est un truc, tu fais Koh-Lanta, t'as un compte qui prend 150K sur Instagram, tu fais des placements de produits, et là, c'est passif. Parce que tu fais
pas rien, t'as plus d'efforts à fournir.
Enfin, passif, là, en ce moment, j'ai un truc passif, du coup, c'est je vends des rubans adhésifs et des scotchs sur.
Ok.
Amazon, tu vois.
Ça donne envie, ton business.
Mais attends, mais ça fait 2000K par mois.
Ah ouais, putain, bien vêche.
Ouais, je fais 8-4 chiffres d'affaires et 2 de bénéfice.
Ok, très bien.
Mais par contre, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au début, dans mon ancienne boîte, j'achetais entre 150 et 200 rouleaux par mois.
Non, mais ce mec, il a une vie, mais...
Et en fait, tu sais, sur Amazon, il y a un truc très simple. Tu vas sur commande, commander à nouveau, et tu commandes à nouveau.
Ouais.
Et tu te prends pas la tête. Et en fait, ça marchait jamais. Commander à nouveau, le mec est tout le temps en rupture de stock. Et j'en prenais un nouveau, qui était encore en rupture de stock. Et j'en avais trop marre, parce qu'après, je refasse ma recherche.
Trouver des scotchs,
mais sauf que sur Amazon, souvent c'est des scotchs x6, c'est pour le mec qui déménage. Si ça lui suffit, moi j'envoyais 50 colis, 70 par jour.
Pour la petite anecdote, Loïc a lancé quand même une boîte qui s'appelait
Le Coq Gourmet. Ouais,
c'était hyper c'est hyper connu.
Ouais,
c'est des box de produits locaux de France que tu avais lancé quand tu étais étudiant.
J'étais chez Twitter en
Irlande, ouais. Et ils disaient, tu t'étais dit, mais mince, il y a mes confrères, bref, ils veulent découvrir des produits français, ouais. Et il avait eu l'idée de lancer une box de produits français, et genre tu m'avais raconté, tu t'étais fait livrer toutes les boîtes en carton vide dans ton appart.
Comme d'habitude.
Ouais, ça c'est un sacré taf.
Comme d'habitude, j'étais un peu vite, parce que je m'étais dit, j'ai eu l'idée en 30 secondes, j'ai tout commandé, et je me suis fait livrer tous les cartons, genre 2000 cartons en Irlande, sauf que les produits, j'ai pas les faire en Irlande, tu vois, donc je me suis retrouvé avec ça sur les mains, enfin j'ai... Il y a eu un milliard d'erreurs, tu vois, mais à la fin ça marchait très bien.
Mais il a lancé ça, mais le Coq Gourmet,
oui, c'est costaud
encore, parce que tu l'as revendu.
Ouais, j'ai revendu.
Ça a le même nom?
Ouais.
Ah ouais, putain.
Ouais. Oups. C'est encore vivant, ça fait un nom, mais c'est cool. Il était là, avec le changement. Mais en fait, les scotchs, tu vois, ça a commencé comment? C'est que j'en trouvais que des x6. Et x6, moi, vu que j'en commandais 200, il fallait que j'en fasse, je commande 48 kits, tu vois. Et bien sûr, c'est dégressif. En fait, x12, il y avait un peu. Par contre, x24, non. x48, non. Moi, il m'aurait fallu x100, tu vois. J'aurais fait 2 fois 100, même 4 fois 100. Et je me dis, en fait, pour les mecs comme moi, il n'y a rien sur Amazon. Et quand tu allais sur Raja, Tessa et compagnie, il n'y avait rien non plus, tu vois.
Raja, tout ça, c'est des sites internet de...
C'est pour les boîtes, les entreprises.
Ouais, et en fait, du coup, je me suis dit, là, il y a un besoin, j'ai créé ça. Du coup, ça marche maintenant.
C'est ça. En fait, tu as le côté vraiment entrepreneurial parce que tu identifies un besoin.
En fait, le bruit du scotch, il m'empêchait de regarder le film, tu vois. Parce que j'entendais et c'était insupportable, en fait je pouvais pas regarder les films, donc je mettais juste du son. Et je me dis, putain, mais si j'avais un scotch, je me dis, imagine, toi t'as des collègues, t'as une start-up, t'as une petite boîte, donc t'as une petite pièce où t'as la logistique et une pièce où t'as le mec qui bosse, mais en fait c'est insupportable pour tout le monde. Et du coup j'ai développé un truc avec un petit truc en plus où normalement le crac, on l'entend moins, tu vois.
Trop marrant.
Et c'est ce que j'ai mis en avant, tu vois. Mais du coup ouais, ça sert. Je t'avoue que là, j'ai pas l'impression, comme toi, de servir la société, tu vois. Je donne pas des cours et je forme personne.
Je vends des scotchs sur Amazon, les gars.
Après,
écoutez.
Par contre, sur Amazon, j'ai essayé de vendre des assiettes en silicone pour bébé et des tours de lit. Là, c'est perdu. Là, j'ai perdu.
Ça a pas marché.
Ouais, j'ai perdu entre 10 et 15 000 euros.
Tes claims marketing n'étaient pas au rendez-vous, là.
Ouais,
t'as mal identifié.
J'ai perdu 15 000 balles sur les bébés.
Donc, t'as ta propre marketplace sur Amazon, en fait, c'est ça?
Ouais, je me marque.
Ok. Ouais. Ça s'appelle comment?
Paxet.
Wow!
J'ai aussi un site internet. Mais du coup, ouais, ça sera le bébé. J'ai voulu jouer sur la data par contre et pas sur le besoin que j'avais remarqué. Je me suis dit, ouais, là, j'ai regardé un peu, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il n'y a pas beaucoup d'offres, par contre, il y a une grosse demande et compagnie. J'ai tenté, je perds 15 000 euros.
mais ça le fait rire, il vient.
Ouais, bah, mais c'est ça, ça m'a remboursé ça au fur et à mesure, quand même.
Et alors, moi, j'aimerais aborder un sujet un peu en lien avec ce qu'on voit beaucoup aussi en ce moment, c'est le sujet de la santé mentale en entreprise. Parce qu'on voit de plus en plus le sujet des burn-out, surtout, bah, d'ailleurs, chez les profs, c'est un truc qui revient souvent quand même.
J'en ai fait deux. Ah ouais, je me suis arrêté. Non, j'ai pas fait des burn-out, mais je me suis fait arrêter deux fois.
Ok. Et du coup, on voit énormément d'articles sur les sujets de la santé mentale en entreprise. On voit de plus en plus de start-up qui se lancent sur ces sujets-là, que ça soit le bien-être, je sais pas, des ateliers de sophrologie, des cours de yoga pour les entreprises, etc. Qu'est-ce que ça révèle ? Est-ce que c'est parce qu'on prend de plus en plus conscience de l'importance de la santé mentale ? Ou est-ce que parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience générale que ça ne peut pas continuer comme ça à ce rythme et que finalement, on cherche tous à mettre plus de sens dans le travail et dans notre vie et que du coup, ça fait péter une durite à beaucoup de gens ?
Bah, question ouverte. Il y a les deux, non ? Je ne sais pas.
Ce qu'essaient de faire les entreprises, à savoir ce que tu viens de mentionner... Des cours de yoga, peu importe, pour assurer le bien-être en entreprise, c'est un peu du bullshit et du marketing d'entreprise finalement. Pour, comme Google ou certainement Twitter d'ailleurs, qui doivent avoir des super bureaux avec une super cantine, etc. pour soi-disant être bien dans la boîte, mais surtout pour rester plus longtemps et pour bosser mieux, sauf que. In fine, je ne sais pas si ça fait vraiment bosser mieux, ça fait rester plus, ouais. Mais encore une fois, c'est du coup du présentéisme plus que du travail. Pour moi, le bien-être, je ne sais pas si bien-être et entreprise
vont ensemble,
vont parfaitement de pair. Alors oui, tu peux être bien dans ta boîte parce que tu es bien considéré par tes collègues, mais ça ne tient qu'à toi finalement, et à ta hiérarchie et à tes supérieurs. Et pas aux RH qui te disent « Bon, bah là, on vous propose une fois par semaine de faire un cours de yoga à 12h30 jusqu'à 13h20. Mmh. Et à 13h20, vous regagnez vos bureaux. » Ça, je pense que... Après, on est tous assez adultes pour mettre une barrière
non,
entre...
Non,
oui.
Je suis non. pas d'accord. Non, t'as énormément de gens qui... tu sais, enfin... t'as plein de gens pour qui le fait même de parler de thérapie ou de suivi, c'est du chinois. Enfin, c'est pas encore si acté que ça, tu vois. Par contre, moi, je vois, enfin, depuis quelques années, on en entend tout le temps parler des burn-out, des machins, de la santé mentale. Et juste, pour exemple, quand je suis partie en Inde et que je suis arrivée là-bas, j'ai vu énormément de gens qui étaient des étrangers et qui étaient venus s'installer, en fait, à Goa, ou qui me disaient, moi, je passe 7 mois dans l'année ici. Et le reste de l'année, je suis dans mon pays, je travaille ou autre. Ou alors, c'est des retraités qui font 6 mois dans l'année en Inde et 6 mois dans leur pays. Et pour ceux qui avaient tout plaqué, je leur disais, mais pourquoi ? Ils disent, mais je ne peux plus travailler avec le rythme de vie classique. Il n'y a aucun avantage. Déjà, bon, tu es taxé à balle sur ce que tu travailles. Tu as l'impression de donner la quasi-totalité à l'État. Déjà de 1. Et de 2, à quel moment je m'épanouis ? À quel moment je grandis personnellement ? À quel moment je me fais du bien vraiment ? Ou à la fin de la journée, je me dis putain, je me sens bien. À la fin de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 4 réunions, j'ai vendu X chiffres de machin, j'ai travaillé, j'ai donné des cours, j'ai machin. Mais à la fin de la journée, est-ce que moi, en tant qu'humain, en tant que personne, je me sens mieux ? Et du coup, je parlais avec ces personnes-là et elles me disaient, moi, j'ai tout plaqué et je vais devenir digital nomade. Je fais, ouais, bon, alors, écoute, voilà. C'est quoi, encore un autre délire ? C'est encore une autre histoire. Pour le coup, ce n'est pas l'Inde que je viserai comme pays de visite finale de digital nomade parce que c'est quand même assez intense hein, comme pays. C'est pas, à mon avis, le pays le plus simple pour s'expatrier. Merci pour le vin blanc, Loïc. Si t'as envie que j'ai une conversation logique jusqu'à la fin du soir,
coste-le.
mais je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, j'ai pas de réponse fixe, mais en tout cas, il y a un essor de ces sujets-là qui révèle à la fois une prise de conscience par les gens et en même temps, comme tu le dis très bien, Ellie, une excuse et un bullshitage hypocrite à balle par les entreprises qui te disent. Non, mais en fait, on vous a mis sur votre offre de mutuelle 3 séances de psychologie par an. Mais attends, mais c'est pas normal que j'ai besoin d'aller voir un psy, les gars, parce que je suis au bout du Rolls, là. Enfin, non. Du coup, il y a cette ambivalence entre prise de conscience et hypocrisie. La parole est à toi, Thibault.
Déjà, revoyez vos conditions de travail avant de mettre des happiness thérapistes ou je sais pas quoi dans les entreprises. Même si c'est bien, mais déjà, soignez, comme tu dis, plutôt que de me donner des séances de psy, donnez-moi des conditions de travail qui ne me font pas envie d'aller voir un psy ou qui ne me font pas besoin d'aller voir un psy. Et aussi, je pense, la question, on prend plus en compte cette question du bien-être au travail. Mais j'ai l'impression quand même que c'est très, c'est très dans notre classe sociale à nous, quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
De prendre en compte le bien-être au travail, etc.
Bah regardez-nous, là, on a tous à peu près 30 ans.
Oui, 30 ans, 31.
À peu près 30 ans, on est tous blancs, on vit tous à Paris, on a tous quand même des moyens, je veux dire, en comparaison avec... je sais pas, des personnes que je connais qui sont agriculteurs et qui vendent du fromage dans le fond enfin, du temps, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Ouais. Pour autant, le mal-être y est aussi, hein, psychologique à mon avis, c'est juste qu'il est moins évoqué.
C'est ça. Parce que, du coup, je vous ai dit, j'ai fait deux arrêts, je me suis arrêté deux fois, mais je me suis arrêté aussi en sachant que dans mon milieu, ça allait aller, quoi. Enfin, j'allais pas être... pas être jugé que je me suis arrêté parce que j'étais au bout de mes forces. J'étais au bout de mes forces, j'en pouvais plus de trop travailler.
Sans que toi tu le demandes.
Je suis en fait il y a c'est deux fois que ça m'est arrivé. Les deux fois c'est je me suis réveillé le matin et c'était physiquement je ne pouvais pas me lever de mon lit sans pleurer et du coup j'étais en mode bon bah je ne vais pas aller travailler et après je suis allé voir le médecin. Tu vois.
Mais ce que tu dis sur le milieu c'est vrai parce que tu vois moi je me suis quand j'ai créé ma boîte j'ai quitté Twitter où j'étais bien payé. Un peu à la one again, après je suis allé bosser chez TripAdvisor en Espagne, puis j'ai quitté pour rien du tout, en mode bon bah avec un peu de chance ça marche, en vrai ça marche pas, je rentre chez mes darons et je suis pas à la rue. J'aurais eu un prêt de 50 000 balles par mois et pas les darons pour m'aider derrière.
Ouais, non, je pense
clairement,
pas.
Même si je perds tout sur un, jackpot, ouais, je serais jamais à la rue. Donc j'ai un diplôme, entre guillemets, grâce à eux, j'ai un parachute grâce à eux. Là encore maintenant 29 ans, donc en fait je peux me permettre
toutes ces folies
parce qu'en fait même maintenant je sais qu'ils sont derrière là.
Bah oui, mais est-ce que c'est pas finalement des envies ou des choix de entre guillemets de gosses de riches?
Ah bah clairement si ça n'y avait pas un sou il me disait là maintenant t'es indépendant.
Si tes parents étaient agriculteurs et qu'ils faisaient du fromage et que tu devais reprendre la ferme, t'aurais pas non plus le choix de.
Non, et puis si, de toute façon si je me loupais et je devais rentrer dans la Creuse ou en Corrèze, etc. Je pense que je réfléchirai à deux fois et je me prendrai un taf alimentaire à côté, en bossant, tu vois. Après, j'espère pas me louper. Hein.
Ouais. Mais toi, du coup, quand t'as été arrêté, t'as été arrêté en combien de temps?
À chaque fois, j'ai demandé le moins possible. Parce que je suis aliéné de ouf, donc oui. Et donc, c'était une semaine.
Ok.
Donc, c'est une semaine de vacances qui n'est pas vraiment une semaine de vacances. Parce qu'au bout de deux jours, tu te remets à travailler.
Culpabilises.
Et puis, tu culpabilises de ouf. Et juste moi, dans ce moment-là, je me rappelais juste. Parce que j'ai fait des jobs alimentaires, comme j'imagine vous tous. Le pire job que j'ai fait, c'était agent d'entretien. Donc, je nettoyais des toilettes dans un hôtel et je faisais les chambres. Et je me souviens à quel point c'était horrible. Enfin, comment je vivais super mal, il y avait zéro question de bien-être qui se posait. Tout le monde autour de moi le vivait super mal, ces conditions de travail. Et pourtant, jamais ça arrivait à l'esprit de quiconque de se mettre en arrêt parce que ça va pas. Ou de
parce
parler...
Parce que pas le choix, en fait.
Parce que pas le choix, parce que c'est pas la culture du milieu, parce que pour tout un tas de raisons. Et donc, je pense qu'on prend plus en compte le bien-être au travail dans les milieux favorisés qui peuvent se permettre en effet de s'arrêter et c'est là où je voulais en venir.
Bah, très bien.
mais qu'on le prend quand même plus en compte.
On le prend plus en compte et en même temps, du coup, là, si vous deviez, je sais pas si on était dans une société à la George Orwell 2.0, une société 2.0 version travail, ça serait quoi pour vous le mode de vie idéal de travail, comment vous vous épanouiriez le mieux, quel ce serait pour vous votre taf idéal qui vous permette de gagner votre vie, qui vous permette de kiffer votre vie, ce serait quoi pour vous le truc idéal?
Ah, moi, je sais. Moi, idéalement, depuis même plusieurs années, j'aimerais être rentière. Donc, avoir investi au préalable dans de l'immobilier. Et clairement, du coup, je ne travaillerais pas. Ce ne serait pas le mot associé. Mais bon, je gérerais quand même, finalement, plein de biens immobiliers.
Mais tu ferais quoi, du coup?
Ah, tu gérerais. Qui ferait ma vie? J'adore faire du théâtre, donc je ferais du théâtre. J'en ferais plus. Je m'investirais plus si jamais un jour j'ai des enfants, ce que moi, pour le coup, j'aimerais, auprès de mes enfants. Je ferais plus de sorties culturelles. J'organiserais plus de voyages. Je m'investirais dans une association.
Qui a
du sens pour moi. Et peut-être que j'aurais envie de créer quelque chose. Mais oui, mais pour le coup, je ne l'associerais pas à du travail parce que je n'aurais pas besoin de cet argent. Donc, moi, j'aimerais avoir un confort monétaire pour ensuite faire ce que j'ai envie de faire.
Et à partir de combien d'euros par mois tu ferais ça?
5 000.
Quand même, hein, ça genre...
Parce que ça, faut 2-3
appartements,
c'est ça.
Oui.
Et toi, Thibaut?
Dans un monde idéal, moi, dans un monde idéal, je me suis déjà demandé qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto, justement. Et je pense que je continue mon taf actuel. Ouais, parce que j'ai trouvé, parce que là, j'ai trouvé une voie qui me plaît bien, pour le coup. Toi, par exemple, dans ce que tu décris, comme j'ai l'impression que tu travaillerais quand même, c'est juste que tu fais pas du... En fait, ton travail, c'est pas du théâtre, en fait. C'est juste
non.
ça.
Non. Hélas, j'adorerais être grande actrice.
Et bah, voilà. Tu vois, il y a peut-être une reconversion envisagée, Élie. Par contre, tu ne gagneras pas 5 000 euros par mois, je pense.
Ou peut-être même beaucoup plus.
Oh, peut-être, qui sait.
Si t'es très connue.
Marion Cotillard.
Marion Cotillard, je pense qu'elle gagne beaucoup plus que 5 000 euros. Non, mais par contre, je travaille... Enfin, mon activité professionnelle serait beaucoup plus limitée en temps.
Ouais.
C'est-à-dire, okay. Je serais à mi-temps...
voilà. Juste pour l'épanouissement.
Parce que, ouais, pour la question de la place, de ton rôle, ta place dans la société, parce que je trouve que bah, c'est une place qui est cool, parce que j'ai l'impression de faire des choses utiles dans ma vie. Mais par contre, décharger de la notion de trop s'investir. Et donc, pour ça, ça passe par une réduction du temps de travail. Après, je pense que je ferais des loisirs, ouais, aussi, ouais. Beaucoup, quoi. C'est ça.
Combien de coups par mois il faudrait?
Combien il faudrait pour que... un petit...
T'as gagné au loto, c'est déjà...
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus une question de patrimoine que de...
Ah ouais, que de chaque mois.
Ouais, que de chaque mois.
T'es pas impulsif parce que tu vas pas tout lâcher d'un coup, quoi.
Si, je pense que je lâcherais beaucoup de manière... sur des coups de tête, si, c'est possible que je lâche.
YOLO, allez.
Mais ouais, il y a une question de plus facile de se projeter dans le temps quand t'as
Moi, je trouve qu'avec le travail, il y a quand même un gros regard de la société qui est important pour beaucoup de gens. Et j'en fais partie, hein. Je ne pourrais pas ne rien faire parce que, en fait, mon entourage ne fait pas rien et j'ai envie d'avoir un travail que je trouve que les autres peuvent trouver intéressant pour être bien.
Donc, tu as besoin de l'image que te renvoient les
complètement.
Autres.
Ah, je l'assume. Moi, je le reconnais complètement.
C'est très intéressant parce que, alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport, Marie? Bon, je fais souvent des déviances. J'ai participé à une journée de tantra pour femmes dimanche, toute la journée. Et on a fait plusieurs pratiques différentes. Et il y a eu un moment donné, on a tiré une carte parmi un jeu de cartes de Osho, de Tantra. Et c'est un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de la transformation. Et donc, tu as chaque carte qui a un thème et tu vois ce que tu veux bien voir. Elles étaient toutes à l'envers. Et moi, je retourne la première et c'est la carte du détachement. Oh putain.
C'est donc, drôle quand je vois devant moi, je me lève et je me casse, que Marie a écrit sur un de ses papiers sur le mur.
Et en fait, il y avait le fascicule avec qui était sur qu'est-ce qu'il faut analyser par rapport à cette carte-là. Et la carte du détachement, moi je le voyais comme se détacher des choses du passé, genre des relations passées ou des trucs comme ça. Et en fait, c'était le détachement par rapport à l'image que les autres ont de nous à laquelle on se réfère. Et c'était en fait à partir du moment où tu te bases sur ce que les autres pensent de toi pour déterminer ta propre valeur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beaucoup de gens en fait, qui se définissent parce que l'image des autres leur renvoie. À partir du moment où tu atteins cet état de détachement, en fait, tu sais toi-même qu'est-ce que tu vaux et qui tu es. Et en fait, que l'autre te dise que tu es vert, bleu, jaune, gentil, beau, intégré, intéressant, pas intéressant, tu n'en as rien à carrer parce que tu sais toi-même ce que tu vaux et ce que la vie des autres ne compte plus du tout. Et c'était ça, la carte du détachement. Bref, c'était une petite déviance par rapport à ça, mais je trouvais ça assez intéressant. Et alors, je dis pas que c'est encore parfait, Mais j'arrive de plus en plus à cet état où je n'en ai de plus en plus rien à foutre, en fait, de ce qu'on pourra penser en bien, en mal ou quoi qu'est-ce. J'apprends vraiment à m'en détacher. Et du coup, ce statut-là qui m'importait avant aussi au niveau travail, etc., en fait, j'ai plus aujourd'hui la priorité de créer la chose qui me fait kiffer et qui me fasse gagner ma vie, quand même, versus de l'étiquette que ça aura dans la société. J'ai vraiment envie de créer le truc qui me donne du sens à moi et si possible, qui ait du sens pour d'autres personnes, versus l'étiquette que ça a aux yeux des autres, en fait.
Et donc, la Marie détachée, si elle vivait dans un monde idéal, elle ferait quoi de ses journées ?
Eh bien, elle est en train de le créer, donc j'espère bientôt y arriver. Mais dans un monde idéal, je n'ai personne pour décider de l'heure à laquelle je me réveille ou de l'heure à laquelle j'arrête de travailler ou de l'heure à laquelle je prends ma pause. Sauf si effectivement je décide de travailler avec des gens qui ont des impératifs et auxquels je m'accorde avec leur emploi du temps aussi, c'est aussi tout à fait normal, c'est ok et c'est bien parce que ça permet aussi de socialiser, parce que c'est important en fait, je pense quand même d'avoir un rythme qui te permet d'être quand même d'être dans la rencontre. Moi j'ai besoin d'être dans l'échange, donc dans un monde idéal, mon travail ou en tout cas la manière que j'ai de gagner ma vie, c'est d'être dans la créativité, donc que ça soit par les contenus, etc., donc dans la rédaction parce que moi j'adore ça, avec des projets différents qui font appel à des sujets qui me parlent, donc la santé, la psychologie, tous ces sujets-là. Et j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Et ben, en créant ce podcast, mine de rien, je donne du sens parce que je ne dis pas que ça sauve le monde, mais si ça peut aider une personne qui entend les mots et que ça peut lui faire avoir une idée différente, ben, en fait, c'est trop cool. Et bah, le fait de devenir thérapeute, c'est aussi quelque part aider d'autres personnes à aller mieux. Et du coup, ça met du sens. Et si j'y gagne aussi de l'argent, bah, en fait, c'est tout bénef. Et pour vivre bien, par mois, je pense qu'il me faudrait 5 000. Ouais, 5... Mais 5 000 en sachant que du coup, je kifferais à... Et j'ai pas envie de compter parce que j'ai passé des années dans ma vie à compter et à ne pas avoir d'argent et je n'ai plus du tout envie de revivre ça. Je vois pas l'argent comme une fin en soi, mais vraiment comme un moyen de kiffer ma vie, d'investir. Pourquoi pas un jour acheter, tu vois, avoir aussi des biens, voyager. Tu vois, moi, je vois comment on se pèle le fion ici à Paris là, pendant l'hiver. Mmh. Et du coup, mon métier idéal, c'est aussi de pouvoir le faire de partout. Ça, c'est mon... Mais... Après, effectivement, encore une fois, j'ai pas d'enfants.
J'allais dire, pas tes enfants, Baron, pas sûr que tu puisses embarquer comme ça de moi.
Est-ce que t'en veux ?
Si j'en ai, parce que ça se présente, ça sera cool. Si j'en ai pas, parce que...
C'est-à-dire...
Si je rencontre la bonne personne et que...
Parce que moi, j'ai cru que c'était en mode, ça arrive et...
Pouf ! Non. Si, à un moment donné, à la fin de ma vie, j'aimerais... Je pense que j'aurai des enfants, mais si ça se fait pas... Je veux pouvoir me dire que j'ai mené ma vie en étant heureuse sans. C'est-à-dire que je ne veux pas dépendre du fait d'avoir des enfants pour être heureuse et kiffer ma vie. Mais si ça doit se présenter parce que la personne, le moment, l'envie se fait, je sauterai dessus parce que je sentirai que c'est le moment. Et je sais que j'ai encore largement le temps. Enfin, ma mère, elle m'a eu à 35, elle a eu mon petit frère à 41. Je suis large. Et je préfère attendre que ce soit le bon moment plutôt que de le faire trop tôt et que ça soit pas le moment, pas la bonne personne. Et je veux être sûre d'être vraiment alignée avec ça et d'être prête à donner ce qu'il faut d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel, que toutes les choses soient au bon endroit pour qu'aussi cet enfant en profite le mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu vois aussi beaucoup de gens qui font des enfants très jeunes parce que la société, parce que la pression, parce que plein de raisons, et qui, en fait, n'ont pas le temps pour s'en occuper ou n'ont pas forcément les outils émotionnels bien solides et tout pour aussi donner le meilleur à un enfant pour qu'il puisse s'épanouir. Et du coup, tu te dis, mais voilà. Et je vois des femmes aussi qui n'ont pas eu d'enfant de leur vie et qui sont hyper épanouies, qui sont hyper heureuses et qui ont eu d'autres enfants, entre guillemets, parce qu'elles ont accompagné des jeunes ou parce qu'elles se sont entourées dans des enfants d'autres, etc.
Mais là, je prends l'exemple de mon père, lequel on est archi proche, mais aux antipodes. Totalement, l'entrepreneuriat, il comprend pas, pour lui, c'est un truc de la planète et c'est un truc qui se passe que chez les autres. Il m'a jamais.
Et il te soutient quand même ?
Maintenant que la première boîte a marché, ouais, mais par exemple, il a pas voulu mettre 1 euro dans ma campagne de crowdfunding parce qu'il m'a dit si c'est moi qui mets, ça fausse le truc. Le but, c'est pas ça. Le crowdfunding, c'était proche qui m'aide pour t'aider à avoir un billet.
Ça t'a fait mal ?
Je sais qu'on a une génération d'écart. C'est un militaire qui m'a eu à 50 ans, j'ai des nièces qui ont 2 ans de moins que moi. Je juge pas là-dessus parce que
Non mais est-ce que toi ça t'a touché ?
Non, ça m'a donné envie justement de lui faire...
de lui montrer que t'allais y arriver.
Ouais, tu vois. Mais tu vois, ouais, non, pas du tout. C'est un peu dommage qu'il soit fermé comme ça, mais hors de question pour moi de négocier, de m'abaisser à négocier, s'il te plaît, mets un peu d'argent pour m'aider à commencer le truc. Ok, fais ce que tu veux, tu vois. Ce qu'il me dit souvent, quand je dis que pour l'instant, en tout cas, les enfants, c'est hors de question, et quand je dis pour l'instant, c'est pour l'instant...
à l'heure actuelle, de l'état actuel.
Mais aussi dans l'état actuel, voilà, ça. C'est là, si tu me vois maintenant à 36 ans, c'est aussi... pour l'instant, c'est non, tu vois. Après, bien sûr, je peux évoluer et j'évolue tellement vite et tout le temps que ça peut le faire.
Ouais, mais le mec, il lance 3 boîtes en 3 ans, oui, effectivement.
il dit souvent, tu vois, quand t'auras 65, 70 ans, tu seras bien content que les petits-enfants viennent à la maison, tu vois. Et en fait, là encore, c'est complètement, tellement à l'opposé de ce que je veux avoir dans ma vie. C'est-à-dire que je veux tellement pas être dans la situation où j'attends les petits-enfants à 70 ans, mais à 70 ans, je vais encore avoir ma vie avec tous mes projets et que ça déborde
partout. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. C'est encore parce que probablement ton père a la vision à l'ancienne que on fait des enfants et les enfants nous le rendent et nous sont reconnaissants, etc. Alors que moi, pour moi, dans ma vision, avoir des enfants, c'est juste créer la vie pour des nouveaux êtres humains, pour que eux, avec les outils que j'ai pu apprendre moi dans ma vie, leur donner tout ce que j'ai appris, leur montrer, leur dire écoutez, moi je connais tout ça, faites ce que vous voulez avec et créez-vous votre life de rêve. Tu vois, vous verrez de toute façon plus loin que moi, c'est sûr, parce que vous serez une génération devant.
On peut pas, ouais, mais je pense qu'on peut pas passer sa vie à donner et à jamais recevoir. Et finalement, avec les enfants, c'est un peu pareil. Alors oui, on fait des enfants.
Non, c'est pas donner pour pas recevoir, mais c'est plus dans le sens de. Ils ne m'appartiendront pas, ces enfants.
Ah non,
tu vois, c'est ça, ils sont devant nous. Alors que peut-être que dans la société, dans la génération d'avant, il y avait ce côté redevabilité de nos enfants nous doivent.
Ah, ma maman, elle me dit souvent, mes parents ils sont divorcés quand j'étais assez jeune. J'ai tout fait pour vous quand vous étiez petit et maintenant vous n'êtes pas là pour moi. Enfin, un, j'avais 5 ans, je ne m'en rappelle pas. Deux, c'est ma vie maintenant, tu vois. Et si t'as pas. En ce moment, elle n'a pas de mec, elle n'a jamais. Si le samedi soir t'es toute seule, c'est pas à moi à 29 piges d'aller toi au resto avec toi. Et c'est pas parce que quand j'avais 5 ans tu partais en vacances tout le temps avec moi et pas avec tes potes et je sais pas ce qui est passé parce que j'en sais rien, mais c'est pas moi de payer ça tes 20 ans derrière, tu vois.
Ça, c'est...
Et du coup c'est peut-être pour ça que t'es autant en opposition.
Ah ouais, ouais. Clairement, c'est parce que
c'est une histoire de famille quand même.
Ouais. Non,
ce podcast tourne en thérapie collective.
Il y a un truc clairement oui avec ma.
Donc toi, Thibaut, tu veux des enfants ?
Oui. Bonjour.
Ma copine est enceinte.
T'as une copine, t'as une copine, Thibaut, toi, c'est ça ?
Ouais.
Depuis combien de temps ?
On est ensemble depuis 4 ans, là.
Ah ouais, donc...
En fait, je l'ai
rencontrée. Elle est enceinte, là, c'est ça ?
Je rigole,
c'est une blague.
Non. Bonjour. Bonjour, Alix. Il y a des projets en cours, mais...
Pas pressé, voilà. Le temps.
Voilà.
Vous habitez ensemble depuis combien de temps ?
Ça passe en interrogatoire, là, dis-moi.
Non, mais
ça fait.
Ça l'intéresse.
J'étais avec neuf pendant 4 ans, donc.
Ça fait 2 ans et demi qu'on habite ensemble. Okay. Enfin, ça fait 2 ans en septembre, tu vois. Et oui, et non, mais par contre, c'est pas faire des enfants pour. Comment dire ? Souvent, tu disais, on n'a pas les clés émotionnelles, on n'a pas les machins pour. Et on fait quand même des enfants. Souvent, les gens font quand même des enfants pour eux, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est pour eux.
Ah, pas... Pour les enfants, tu veux dire, ou pour eux
Ouais,
je pense qu'il y a un peu d'égoïsme derrière. Enfants, moi,
pour combler, combler un vide, en vrai.
Ouais.
Et moi, je suis plutôt de la team faire des enfants pour voir ce qui va se passer avec de la nouvelle vie qui se crée.
C'est ça.
Mais après, quand t'as la volonté de faire des enfants dans ta vie, il y a quand même un truc de t'aimerais bien que ça se passe bien, qui t'aime bien et qui t'aime bien, tu vois. de préférence.
Ouais.
Préférence, peut-être faire venir mieux te voir une fois par an, tu vois, c'est bien.
Oui. mais du coup, toujours par rapport, peut-être quand même revenir sur le sujet du travail. Il y a aussi de plus en plus de démarches aujourd'hui. Je voyais sur LinkedIn passer. Alors c'est marrant parce que c'est très drôle. Petite anecdote. J'ai bossé avec une jeune femme qui s'appelle Louise.
Désolée Louise, tu passes par là.
J'ai bossé avec quelqu'un il y a très longtemps, enfin il y a plus de 8 ans ou 9 ans quand j'étais dans ma première boîte CDI. Et on s'est recroisés la semaine dernière à la salle de sport. Genre improbable, je me dis mais qu'est-ce que tu deviens et tout machin. Je lui dis mais toi et tout. Et en fait je continuais à la suivre sur LinkedIn, je suivais son mec sur LinkedIn parce qu'en fait il est en train de lancer une boîte pour accompagner les entreprises à mettre en place des outils concrets de gestion, etc. Et mettre en place tout un écosystème qui puisse aider les salariés qui sont en cours d'avoir un enfant, projet bébé, ou qui viennent d'avoir une naissance, pour que ça s'intègre dans l'emploi du temps, d'un point de vue de la gestion, je sais pas, de la crèche, l'allaitement, tous ces sujets-là. En fait, il y a de plus en plus ce sujet qui est pris en considération. Donc, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qu'en fait, le monde du travail tel qu'il est dans la société actuelle du 9h-18h, de machin, truc, n'est clairement pas adapté à un rythme de vie d'un enfant qui dort 2 heures par nuit les trois premiers mois. Tu peux pas être productif au travail si t'as à côté un bébé qui t'empêche de dormir, ou tu dois te lever. Rien que pour la maman, bah, l'histoire de les femmes qui tirent leur lait, et ça je l'ai appris par Cyril qui est passé dans le podcast, qui a créé la première sonde pour le périnée, pour la rééducation post-partum, et qui vient de lancer un tire-lait pour les femmes qui travaillent, et c'est un tire-lait pour lequel tu n'as pas besoin d'être branché à un truc pendant 2 heures et tout comme ça, où tu n'as pas besoin de faire un bruit pas possible, tu n'as pas besoin de t'enlever tous tes fringues et tout. C'est un truc qui se met sous le soutien-gorge et qui tire ton lait pendant que tu travailles, etc. Tu l'enlèves, tu le mets au frigo. Donc même les femmes qui travaillent peuvent l'utiliser dans la journée, mettre le truc au frigo, ramener à la maison. Donc il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour ne pas arrêter de travailler, parce que si tu t'arrêtes de travailler parce que tu es une femme, parce que tu dois allaiter ton enfant, tu as encore en plus le déséquilibre du fait que tu sois une femme. Si tu es un père qui vient d'avoir son enfant, tu as moins de jours.
Ouais, donner des congés paternité, hein, sérieux.
Ouais, mais c'est ça, les congés paternité, parce que c'est une inégalité pour les femmes aussi, parce que les femmes qui sortent viennent d'accoucher, elles sont au bout du rouleau.
Ouais.
Et en plus de ça, le père n'est pas là pour... Enfin, c'est une incohérence totale.
Là, je pense qu'on est plus sur quelque chose de sociétal lié à la France, plutôt que global, parce que
en Suède et tout, c'est
dans les pays nordiques en général, la vie, même les villes entières sont adaptées pour les enfants, la vie est faite autour des enfants.
Ouais.
Dans les pays du sud, à l'inverse, bah ils sont déjà en général sous-payés. Donc quand tu pars 2 mois, 3 mois en congé maternité et que tu reviens, t'as plus de taf parce qu'on t'a volé ton taf presque.
Mais il y a un truc de gestion par la famille, non? Enfin, c'est plus ça.
Oui, la famille est très mise en avant, parce que chacun gère, en fait. Chaque membre de la famille a une petite tâche pour un nouvel enfant. Et en France, on est entre les deux, finalement. On autorise un petit peu, mais pas trop. On a un regard assez négligent sur la femme de 34 ans qui arrive dans une entreprise parce qu'on se dit, merde, elle va avoir un enfant dans 2 ans.
Et vous êtes en couple? Vous avoir des enfants?
Vous avez beaucoup vécu ça, vous?
Moi non, parce que j'ai pas 34 ans.
Oui,
mais... mais je l'entends autour de moi. Et le père est, encore une fois, il y a pas de père finalement dans la société aujourd'hui quand on l'entend, parce que jusqu'à encore il y a un an on donnait, ou il y a 2 ans on donnait seulement 2 semaines de congé au père quand même.
C'est tellement rien, t'imagines, parce qu'en fait c'est pas tant c'est rien,
mais c'est pas tant la fatigue, c'est juste l'investissement déjà dans la famille,
c'est déjà la présence du père avec l'enfant qui vient de naître, et c'est aussi surtout décharger la mère qui vient d'accoucher, qui est au bout de sa life et qui en plus se lève toutes les heures pour nourrir le bébé. Enfin, t'as le père qui est déjà au travail toute la journée. Enfin,
l'image.
C'est un mois maintenant.
C'est pas non plus...
Tant que ça ? Ils l'ont allongé autant. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien.
C'était quasiment 3 semaines et c'est un mois.
Mais ça vaut pour le salariat.
Et la femme, c'est 3 mois et tu dois prendre minimum 3 semaines avant d'avoir accouché. Donc finalement, il te reste moins de 3 mois. Ouais.
Et c'est pas beaucoup non plus, parce qu'en fait, on recommande l'allaitement le plus longtemps possible. Donc ça veut dire que à partir de la fin de quand tu reprends le travail, t'es censé te débrouiller soit pour passer au biberon et du coup tu perds l'allaitement
ou avoir
maternel.
Géré la garde de ton enfant et payer X euros par mois. Garder un enfant aujourd'hui c'est super cher, soit une nounou, soit une assistante maternelle, soit la crèche, c'est cher.
Ah si, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la semaine de 4 jours.
Ah ouais. Bref.
Comme Welcome to Jungle. C'est Welcome to Jungle qui fait ça.
Ouais. Et pas que, il y a LDLC aussi.
LDLC.
Mais LDLC, c'est pas la douille. Pardon.
Tu vois, c'est une douille.
Non, mais parce que la semaine de 4 jours, c'est trop bien. Mais il y a la douille de vous faites vos 38 heures, mais en 4 jours.
Ouais, non. Alors, non, normalement, LDLC, la semaine c'est de 4 jours. Je sais pas. Mais normalement...
Ça dépend. En fait, t'as le choix. Soit l'entreprise décide qu'effectivement, tu fais plus d'heures, mais condensées sur moins de jours.
Oh, mais ça, c'est bâtard.
Soit c'est parce qu'il y a une meilleure gestion du travail et de la régulation. Du coup, t'es plus productif sur les jours où t'es là. Et tu fais pas plus d'heures, mais t'es payé 5.
Oui, c'est j'avais bon, aussi.
Mais le 5e, il doit avoir un sens, tu vois. Genre, sur Welcome to Jungle, il faut que tu dises à quoi tu le dédies. Ça peut pas être chiller devant Netflix, tu vois.
Genre, c'est
le théâtre. Fais mes lessives, les gars.
Ouais, après, ça a du sens, hein.
Je sais pas où est la limite. Est-ce que tu dis si tu fais du sport et que tu vas à la salle, enfin, ou tu vas pas. Je sais pas où est la limite. Mais normalement, ce jour-là, il doit avoir un sens.
Dans les gens qui sont embauchés chez les Welcome, t'en as beaucoup qui sont freelance à côté et qui du coup ont un side project.
Ah ouais, tu vois.
Ah ouais, les boîtes, elles aiment pas toujours quand t'es freelance à côté. Hein, parce que ça veut dire dédier moins de temps à la boîte.
Ouais, mais si jamais ton cinquième jour où tu travailles pas chez Welcome, tu te.
Oui, c'est tout à fait légitime. Mais sinon, j'ai entendu une autre boîte en écoutant un podcast qui avait essayé ou qui fait actuellement les vacances illimitées. À savoir, il n'y a pas 25 jours de vacances plus 9 jours de
vacances. C'est autant que tu demandes. Voilà. Mais dans les faits, les gens n'osent pas demander.
Et en fait, in fine, la moyenne des vacances prises par les gens, c'était en dessous des 25 jours.
Tu vois, ils ont tout compris.
Bah, ils avaient...
Encore un truc hypocrite où ils savaient que les gens n'allaient pas oser. Mais ouais, non, du coup, la semaine de 4 jours, ils en parlent de plus en plus, mais les entreprises, elles sont quand même à la trouille. Hein.
Mais je le comprends.
Pour autant, Welcome to the Jungle, ils sont ceux qui ont le moins de... Enfin, ils sont une des entreprises qui a le moins de turnover. Les gens qui s'engagent avec eux, ils restent longtemps. Genre vraiment. Donc c'est qu'en fait, pour le coup, les gens sont vraiment heureux avec eux, tu vois.
Pour une boîte de
tu pourrais peut-être postuler chez eux, peut-être que tu trouverais ton enquête à cam. Hein.
Bah, il manque encore 4 jours, 4 jours off. Ça passe. Moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que je pense que, honnêtement, le travail, il change quand même avec le temps parce que je disais à mon daron qu'en gros, je kiffais, je m'amusais bien et compagnie. Sur Twitter, il y avait un truc qui était sympa, c'est que tous les jours, de 15h30 à 16h, on arrêtait de bosser. Et on allait tous faire une activité. Alors ça pouvait être un tournoi de ping-pong, une boîte qui venait nous faire nous monter une fontaine de chocolat, puis on faisait chacun sa bouchette de fruits, et on l'a passé.
Tous les jours.
Tous les jours.
Et si t'as envie de bosser de 15h30 à 16h?
T'y allais pas, mais en vrai, enfin moi j'y allais en tout cas.
Okay. Ouais, je
comprends. Ouais, mais je pense que en fait quand je lui disais putain c'était vraiment trop bien, je me suis vraiment amusé au boulot. En fait il comprenait pas, tu vois, il me disait ouais enfin attention le boulot ça arrive quand même pas avec plaisir, tu vois. C'est pas possible, le boulot ça n'est pas non plus avec contrainte, avec purge, et en fait pour lui c'était vraiment ça, tu vois. Et en fait quand je lui disais que je m'étais amusé et que j'avais passé une super journée, c'était rigolo, on s'est amusé, on a fait, en fait pour lui c'était pas une journée où j'ai travaillé,
pour un mariole, quoi. Ouais.
Ouais. Et par contre la journée où je lui ai dit oh, là j'en ai chié, c'était terrible, des réunions clients machin, ça n'arrêtait pas, là pour lui j'avais bossé, tu vois, c'était ah c'est bien mon fils, tu vois. Okay. On est sur un autre monde, tu vois.
J'ai un dernier sujet. Est-ce que vous avez déjà été entouré de situations toxiques au travail? Que vous, ça dépend ce qu'on met derrière toxique, mais où vous vous êtes senti où c'était pas toujours ok?
Eh bien voilà, la deuxième partie est terminée. Des heures, des semaines de montage, vous vous en doutez, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de recevoir ces personnes et de continuer à faire ce podcast sur mon temps libre, si j'en trouve. La troisième partie sort bientôt. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.